Par le récit de l'entretien avec Monsieur de Sacy, nous savons que, dans le développement spirituel de Pascal, Épictète a joué un rôle comparable à celui de Montaigne. Grand esprit qui ne se laisse point de répéter que toute l'étude et le désir de l'homme doivent être de reconnaître la volonté de Dieu et de la suivre, mais qui, après avoir si bien compris ce qu'on doit, se perd dans la présomption de ce que l'on peut. Dès lors, le scepticisme et le pessimisme des essais triompheraient s'il leur était donné de supprimer le problème lui-même qui porte avec soi l'inquiétude et l'espérance du salut. C'est ici que la pensée pascalienne rebondit. Malgré la vue de toutes nos misères qui nous touchent, qui nous tiennent à la gorge, nous avons un instinct que nous ne pouvons réprimer, qui nous élève. Moment décisif où tout est remis en question. Le doute de Montaigne et l'assurance de Descartes. Il suffit de considérer cette simple note de Pascal, instinct et raison, marque de deux natures. L'auteur de l'apologie de Raymond Sebond et l'auteur du discours de la méthode y auraient également souscrit, se réservant seulement de l'entendre chacun dans son sens. Montaigne eut pris acte du contraste entre la réalité des merveilles de l'instinct chez l'animal et les prétentions fantastiques de la raison chez l'homme. Descartes eut souligné la distinction de ce qui appartient à l'ordre de l'esprit et de ce qui relève de la matière seule. L'instinct se dédouble comme la mémoire, la joie ou l'amour. Et Descartes précise dans une lettre où il examine le traité de la vérité de Herbert de Cherbury « Pour moi, je distingue deux sortes d'instincts. L'un est en nous en tant qu'homme et purement intellectuel, c'est la lumière naturelle ou intuitus mentis, auquel seul je tiens qu'on doit se fier. L'autre est en nous en tant qu'animaux, et étant une certaine impulsion de la nature à la conservation de notre corps, à la jouissance des voluptés corporelles, etc., lequel ne doit pas toujours être suivi. » Entre Montaigne et Descartes, Pascal intervient comme arbitre. Il accueille volontiers la théorie des bêtes-machines. D'abord, avec Port-Royal, il est reconnaissant du service qu'elle rend à la religion, puisqu'elle fait évanouir la difficulté considérable de savoir pourquoi, attribuant une âme aux animaux comme à l'homme, on leur refuserait de participer comme lui à l'immortalité. Mais ce que Pascal ne peut admettre, dans le domaine pratique, pas plus que dans le domaine spéculatif, c'est que l'intuition soit homogène et immanente à la raison. Les principes se sentent, les propositions se concluent. D'où résulte en fait que tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. Et cela ne laisse pas de paraître légitime, car le jugement est celui à qui appartient le sentiment comme les sciences appartiennent à l'esprit. La finesse est la part du jugement, la géométrie est celle de l'esprit. Sur quoi, se souvenant du mot d'un ancien que rapporte l'apologie de Raymond Sebond, Pascal écrit « Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. » Où tend exactement cette ironie qui se vante d'être philosophique à force d'antiphilosophie? Serait-ce vers le renoncement désespéré à tout effort pour discerner le vrai du faux, la veille du rêve, pour séparer le bien du mal, la religion de la crédulité? Nullement. Ce qui définit Pascal en tant que tel, c'est que la condamnation de l'entreprise philosophique prépare la victoire de la foi chrétienne sur l'obstination de la raison à dogmatiser par-delà son aveu d'impuissance. Le passage de l'ordre profane à l'ordre de la révélation apparaît dans les pensées, solidaires d'une expérience directe, mais qui ne se limite pas à sa propre histoire, où est engagée la psychologie des deux amis avec lesquels Pascal avait contracté liaison par l'intermédiaire du duc de Rouennais, et qui sont demeurés perpétuellement présents à son esprit, le chevalier de Méret et Miton. Lorsqu'il écrit « Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi que je trouve tout ce que j'y vois », nous devons ajouter qu'il l'a rencontré aussi dans les propos de ces libertins déclarés qui figurent à ses yeux les incarnations vivantes de l'enseignement de Montaigne. Par le contraste de leur caractère, ils sont les témoins par excellence de cette tension intérieure à laquelle les essais doivent leur intérêt essentiel. On dit bien vrai qu'un honnête homme, c'est un homme mêlé. Les plus belles âmes sont celles qui ont plus de variété et de souplesse. Nul ne répond mieux au signalement que le chevalier de Méret. Face à Robert Val, géomètre qui n'est que géomètre, il personnifie le fin qui n'est que fin, qui du moins porte à l'extrême de la délicatesse l'art d'exceller en tout ce qui regarde les agréments et les bienséances de la vie, sans perdre pourtant le charme du naturel et de la simplicité. En morale aussi bien qu'en esthétique, il est l'oracle de ce bon goût qui se fonde toujours sur des raisons très solides, mais le plus souvent sans raisonner. Dans la compagnie de Méret, Pascal s'ouvre les perspectives d'amour et d'ambition qui l'ont enchanté durant ce qu'il est convenu d'appeler la période mondaine et qui fut tout autre chose qu'un épisode. Les dates sont ici d'un intérêt singulier. Pascal s'attache à Méret dans les jours de désarroi qui suivirent la mort de son père et l'entrée de sa sœur, Jacqueline, à Port-Royal. Or, la mort d'Étienne Pascal venait de lui inspirer une grave homélie du 17 octobre 1651, où, faisant retour sur lui-même, il déclare « Si je l'eusse perdu il y a 6 ans, je me serais perdu. » Perdu, en effet, puisque lui aurait manqué la lumière du christianisme de Port-Royal et que, dès lors, il n'aurait rien trouvé en lui, sinon une alternative de véritable malheur ou de plaisir abominable. Ce n'est pas tout encore. Le 10 août 1660, presque 6 ans après qu'il eut, dans le mémorial, consigné sa volonté de renonciation totale et douce, Pascal écrit à Fermat pour s'excuser de ne pouvoir aller à sa rencontre entre Clermont et Toulouse. Il prend à cœur non seulement de lui parler le langage qu'aurait tenu Méret, mais de lui transmettre la leçon qu'il avait jadis reçue de lui. « Vous êtes le plus galant homme du monde et je suis assurément un de ceux qui sait le mieux reconnaître ces qualités-là et les admirer infiniment. Je vous dirai aussi que, quoique vous soyez celui de toute l'Europe que je tiens pour le plus grand géomètre, ce ne serait pas cette qualité-là qui m'aurait attiré, mais que je me figure tant d'esprit et d'honnêteté en votre conversation que c'est pour cela que je vous rechercherai. Car, pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus haut exercice de l'esprit, mais en même temps, je la connais pour si inutile que je fais peu de différence entre un homme qui n'est que géomètre et un habile artisan. Aussi, je l'appelle le plus beau métier du monde, mais enfin, ce n'est qu'un métier. » L'impression, pour ne pas dire l'emprise de Méret, a été durable, plus forte encore que celle de Miton. À côté de l'honnête homme qui se plaît à plaire, qui peuple ses heures de solitude, comme il fera de ses années de vieillesse, avec le souvenir de ses succès dans la société la plus brillante du temps, Miton figure celui qui, sans se refuser au divertissement, ne cesse d'en apercevoir l'envers. « Quand des songes creux comme nous, écrit-il à Méret en reprenant le mot que Montaigne s'appliquait à lui-même, rencontrent par hasard quelque plaisir, il ne faut pas leur en savoir mauvais gré. Pour moi, je me trouve si peu content de tout que, sans quelques pensées qui m'amusent, dont les unes sont pleines de faiblesse et les autres de vanité, je donnerais tout pour peu de choses. Mais cela est bien triste. Il faut doubler le pas pour s'en éloigner. » De telles paroles ne font-elles pas écho aux aveux douloureux de Montaigne, à l'aventure que le commerce continuel que j'ai avec les humeurs anciennes et l'idée de ces riches âmes du temps passé me dégoûte et d'autrui et de moi-même. Je ne sais pas si je me trouve dégoûté sans raison du monde que je hante, mais je sais bien que ce serait sans raison si je me plaignais qu'il fût dégoûté de moi, plus que je ne suis de lui. Il n'est donc pas étonnant que le nom de Miton se lise à 3 endroits dans le manuscrit des Pensées où Méret n'est pas mentionné. Sans avoir la preuve formelle, nous croyons bien qu'il s'agit de Pascal dans un passage énigmatique de la lettre de Miton à Méret. Ce que vous me demandez de notre ami est admirable, et la préférence sur Descartes et sur Platon dont il m'honore m'a bien fait rire. Ne vous souvient-il pas que je lui disais toujours que je n'étais pas en peine de son approbation et que je la regardais comme un bien qui m'était assuré? À l'occasion de Miton, sinon par lui, vont se poser les questions vertigineuses qui formèrent l'arrière-fond des essais et que Pascal devait sommer ses lecteurs de regarder en face. Que signifie la relation de moi à moi? Comment expliquer qu'il surgisse un moi que j'ai conscience de n'avoir pas voulu et qui n'a pas conscience de m'avoir choisi, un moi qui m'attribue la responsabilité de mes pensées, de mes sentiments, de mes actes, pour me condamner ou m'absoudre? De quelle manière se représenter cette étrange et fatale distribution des rôles par laquelle je serai toujours celui-ci et non celui-là, au milieu de compagnons capables de dire moi, ainsi que je le dis moi-même, en qui l'univers s'absorbe comme un rêve et qui semble, en effet, destiné à l'entraîner dans leur néant. Chacun est un tout à soi-même, car lui mort, le tout est mort pour soi. Ces questions, Descartes ne les rencontre que pour les transporter sur le plan de la métaphysique et pour les résoudre par le progrès de la spéculation. La conscience de la spiritualité du sujet pensant implique, à la racine de l'être et par-delà les limites apparentes d'un moi purement personnel, la présence du Dieu intérieur. Pascal leur rend leur caractère dramatique. « Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toutes choses. » Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que les infinités de toutes parts, qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais et que je dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus, est cette mort même que je ne saurais éviter. L'épreuve apparaît nécessaire pour que le problème crucial de la mort soit envisagé dans la perspective de la foi où Pascal travaille à nous conduire. S'il n'a cessé de préoccuper Montaigne, c'était en tant que la mort est un phénomène inhérent aux conditions du processus vital et qui risque de projeter sur la vie elle-même une ombre illusoire et funeste. L'au-delà de la mort n'est nulle part pris en considération sérieuse chez l'auteur des essais. On ne peut, dit Pascal, excuser ses sentiments tout païens sur la mort, car il faut renoncer à toute piété si on ne veut au moins mourir chrétiennement. Or, il ne pense qu'à mourir lâchement et mollement par tout son livre. Il semble qu'il n'en soit plus ainsi avec Descartes. Le titre des Méditations, tel qu'il figure dans la première édition de 1641, annonce que l'immortalité de l'âme y est démontrée en même temps que l'existence de Dieu. Toutefois, ce titre a dû être rectifié sur une remarque du père Mersenne. Descartes lui écrit « Pour ce que vous dites que je n'ai pas mis un mot de l'immortalité de l'âme, vous ne vous en devez pas étonner, car je ne saurais pas démontrer que Dieu ne la puisse annihiler, mais seulement qu'elle est d'une nature entièrement distincte de celle du corps, et par conséquent, qu'elle n'est point naturellement sujette à mourir avec lui, qui est tout ce qui est requis pour établir la religion. Et c'est aussi tout ce que je me suis proposé de prouver. En fait, l'immortalité se situe pour Descartes dans le prolongement des valeurs positives de l'existence terrestre, au lieu d'en être, comme le voudra Pascal, la contradiction formelle. L'un des points de ma morale est d'aimer la vie sans craindre la mort. Et cette morale s'appuie sur une médecine dont Descartes se promet qu'elle sera capable de prévenir presque indéfiniment les menaces de la maladie, en même temps qu'elle déborde le domaine proprement physiologique pour nous découvrir le mécanisme des passions, et qu'elle pose ainsi les bases de la sagesse qui enseigne à se rendre tellement maître et à les ménager avec tant d'adresse que les maux qu'elle cause sont fort supportables, et même qu'on tire de la joie de tous. Le rationalisme cartésien ignore délibérément la mortification, et Descartes va très loin dans ce sens. La faute qu'on a coutume de commettre n'est jamais qu'on désire trop, c'est seulement qu'on désire trop peu. Et il s'en explique dans sa correspondance. Je ne suis point d'opinion qu'on doive s'exempter d'avoir des passions. Il suffit qu'on les rende sujettes à la raison, et lorsqu'on les a ainsi apprivoisées, elles sont quelquefois d'autant plus utiles qu'elles penchent plus vers l'excès. Il n'y a que les âmes faibles et basses qui sont comme les petits vaisseaux que 3 gouttes d'eau peuvent remplir. Il est intéressant de noter qu'un thème analogue se retrouve dans le discours sur les passions de l'amour, qui n'est sans doute pas de la main de Pascal, mais qui se ressent manifestement d'une inspiration pascalienne. À mesure qu'on n'a plus d'esprit, les passions sont plus grandes. Je ne parle que des passions de feu. Dans une grande âme, tout est grand. En revanche, nous apercevons comme une réfutation anticipée de l'argument du pari dans cette confidence à la princesse Élisabeth. Pour ce qui regarde l'état de l'âme après cette vie, j'en ai bien moins de connaissances que M. Digby. Car laissant à part ce que la foi nous en enseigne, je confesse que, par la seule raison naturelle, nous pouvons bien faire beaucoup de conjectures à notre avantage et avoir de belles espérances, mais non point aucune assurance. Et parce que la même raison naturelle nous apprend aussi que nous avons toujours plus de bien que de maux en cette vie, et que nous ne devons point laisser le certain pour l'incertain, elle me semble nous enseigner que nous ne devons pas véritablement craindre la mort, mais que nous ne devons aussi jamais la rechercher.